Chapitre 38. Le 20 août 2016, 12h. Clotilde attendait. Cherbonne et Spinello avaient mis 5 minutes à sortir des toilettes. Peut-être se refaisait-il une beauté, ou peut-être était-ce seulement une manœuvre pour la laisser se consumer sur le grill de la tente. Quelques minutes ajoutées aux 27 années passées. Une ultime et mesquine vengeance. Elle se tourna vers Cherbonne et dès qu'il avança dans le couloir du mobilhome, sans chercher à dissimuler son impatience. Le patron du camping se contenta de se figer dans une mine affligée, le doigt pointé en direction des photos du vieil Allemand. « Tu es certaine de vouloir savoir ce qui s'est réellement passé ?» Il n'attendit pas la réponse, ne regarda pas Clotilde, continua de fixer les clichés. « Tu te souviens, Clotilde, la nuit du 23 août, ton frère Nicolas avait programmé une sortie en boîte de nuit, à la Camargue, après Calvi, pendant que tes parents passaient la nuit à la Casa di Stella. Ils devaient monter à pied jusqu'au gîte en laissant la Fuego garée dans le chemin de la bergerie d'Arcanou. Nicolas avait prévu d'emprunter discrètement la voiture de vos parents et d'emmener en virée tous ceux qui pourraient s'entasser dedans. Tu te souviens aussi que son plan comportait une phase B, larguer les autres sur la piste de danse et réserver avec Maria Chiara un canapé. Mojito et joint tournant aidant, il espérait emmener sa belle italienne dans un endroit peut-être moins confortable, mais beaucoup plus discret. Tu te souviens de tout ça, Clotilde ?
Jusque-là, oui.
Oui ? La suite, comment te dire ? Nicolas s'en est moins vanté, surtout devant sa petite sœur adorée. Parce qu'en réalité, Maria Chiara traînait les pieds. Pas pour le canapé, le cannabis, le rhum arrangé et ce qu'ils avaient tous les deux envie de faire après. Là-dessus, Maria Chiara était plutôt bien disposée.
Son doigt repassa sur la photo du feu de bois, plage de l'Alga. Maria Chiara, tête appuyée contre un Nicolas s'accrochant à sa guitare. L'index de Cherbonne glissa sur les longs cheveux noirs dénoués de l'italienne. Puis, sur sa courte liquette blanche décolletée, sur sa peau cuivrée par le soleil du jour et le feu de minuit.
« Non, Clotilde, » continua-t-il. Maria Chiara traînait les pieds pour une seule raison, la bagnole. Nicolas n'avait pas le permis, seulement une dizaine d'heures de cours et quelques centaines de bornes de conduite accompagnées de son papa. C'est aussi simple que ça. Maria Chiara pensait aux routes étroites, aux virages, aux ravins, aux bêtes sauvages en liberté. Bref, elle avait peur de se planter.
Donc, ils n'y sont pas allés.
Non, pas le soir du 23 août. Ça, tu le sais et tu sais pourquoi. Mais ce que tout le monde ignore, c'est ce qui s'est passé avant. Pour convaincre Maria Chiara, Nicolas lui a simplement proposé de lui prouver qu'il n'y avait aucun danger.
Lentement, le corps de Clotilde se paralysait. Cela commençait par une armée d'insectes invisibles qui immobilisaient ses pieds. Quelques heures avant de monter à Arcanou, tes parents étaient très occupés. Ta mère a se préparé pour sa soirée romantique de l'année. Ton père, de retour d'une virée en voilier, a relire un dossier dont il devait discuter à Arcanou avec Cassano. C'était l'occasion rêvée, l'unique occasion d'ailleurs. Ton frère s'est contenté de prendre les clés de la Fuego et de demander à Maria Chiara de s'asseoir sur le fauteuil passager. Juste pour un petit tour, quelques kilomètres, descendre vers Galeria, quelques lacets, histoire de démontrer à sa belle qu'il maîtrisait, qu'il n'avait pas besoin d'un bout de papier pour tenir un volant, qu'il était prudent. Les insectes anthropophages grimpaient le long des cuisses de Clotilde. D'autres étaient parvenus à s'introduire dans ses poumons et se dispersaient en essaims grouillants pour bloquer sa respiration. Ils sont revenus 10 minutes plus tard. Nicolas a garé la Fuego exactement à la même place. Ils sont tous les deux descendus. Je tenais l'accueil des Euproctes à ce moment-là. Je suis le seul à les avoir vus. Les insectes massaient tout en haut de sa trachée. Ne laissèrent passer qu'un ridicule filet de voix.
Avoir vu quoi ?
Les avoir vus et entendus. Nicolas s'est penché pour regarder sous le moteur de la voiture avant d'assurer à Maria Chiara « Il n'y a rien, il n'y a rien !» Quand il a approché ses mains noires de crasse et de cambouis de sa robe de dentelle blanche, Maria s'est reculée comme s'il était pestiféré et lui a asséné ses quatre vérités. « J'ai écouté, j'ai compris ce qui s'était passé. » Clotilde déglutit. Des milliers de pattes se massaient dans sa gorge, remontaient le long de ses tempes, perçaient de leurs dards ses tympans en un bourdonnement assourdissant. Pas suffisant, cependant. Pas suffisant pour couvrir les mots qu'elle n'aurait jamais voulu entendre. Nicolas s'était planté. Après moins de 3 tournants, il a fait un tout droit et râpé tout le bas de caisse de la Fuego contre les rochers du belvédère de Capo Caballo. Ce sont eux qui l'ont arrêté. La voiture a failli rester bloquée. Nicolas a dû forcer et reculer, sans savoir ce qui frottait, ce qui se tordait, ce qui s'arrachait sous le capot, sous les roues, dans un bruit de ferraille insupportable qui s'est perdu dans la montagne. Cracher. Vomir. Dissoudre les insectes dans un magma d'acide gastrique. Je n'ai fait le rapprochement que quelques jours plus tard, quand quelques gars du coin ont commencé à parler discrètement d'une barre de direction décrochée, d'une rotule vrillée, d'un écrou qui a cédé net. Clotilde se vida devant elle, sur le vieux dalami du mobilhome, sur ses sacs, les poivrons et le bœuf mariné, sur ses chaussures. Cherbonne et ne détourna pas les yeux. Ne pas le croire. Ne pas un instant imaginer que cela puisse être vrai. Que Nicolas ait pu ne rien dire, ne pas se rendre compte du danger, préférer reposer les clés de la voiture en secret et ne pas se faire engueuler. Tu voulais la vérité, Clotilde. Tu me l'as demandé. Je suis désolée. L'image de Nicolas apparut devant ses yeux. Son visage, quelques instants avant le choc, juste avant que la Fuego se retrouve en apesanteur dans le vide. Cette impression tenace qu'il avait poursuivie toutes ces années. Nicolas savait. Nicolas était au courant de quelque chose qu'elle ignorait. Nicolas n'avait pas eu l'air étonné quand la voiture n'avait pas tourné. Comme s'il avait compris pourquoi on allait mourir. Bien entendu, tout s'expliquait. C'est lui qui les avait tous tués. Tu manges pas ? Il y avait une forme d'ironie dans la question de Franck. Clotilde avait tout balancé. Poivrons, ribs de bœuf façon stufato, fruits exotiques. Le festin promis d'épouses attentionnées s'était transformé en dés de jambon, tomates coupées et boîtes de maïs renversées à peine égouttées. Franck avait confié 20 euros à Valou pour qu'elle aille acheter à l'accueil une barquette de frites, un magnum café, un cornetto strawberry. Et toi, Claude, tu prends quoi ? Merci, rien pour moi. Clotilde avait décidé de ne pas parler. Pas tout de suite. Pas maintenant. Pas ainsi. Elle n'avait qu'une envie. S'effondrer dans des bras solides. Cogner de tous ses poings sur le torse d'un homme. Pleurer un torrent de larmes dans le creux d'une épaule. Maudire la vie en hurlant à l'oreille d'un visage qui lui murmurerait en retour des mots d'amour apaisants. S'abandonner tout entière à un homme qui la comprendrait, qui ensuite se tairait, qui l'aimerait. Franck n'était pas cet homme. Elle se leva, empila les assiettes, débarrassa, attrapa une éponge, une bassine, un torchon. Je vais sur la tombe de mes parents, après la vaisselle. Belvédère de Marconnet. J'en aurai pas pour longtemps. Les Corses croient aux fantômes. Leurs tombes en sont la preuve. Sinon, pourquoi construiraient-ils des caveaux monumentaux ? Des mausolées familiaux parfois plus imposants encore que la maison dans laquelle ils ont vécu ? Pourquoi réserveraient-ils les plus beaux terrains pour ces somptueuses résidences secondaires où cette génération sert leur squelette ? Pourquoi réserveraient-ils à leur cimetière les plus beaux panoramas, si ce n'est pour que les morts puissent eux aussi profiter de la brume sur la ligne de crête ? Des silhouettes, des clochers à flanc de montagne, des couchers de soleil sur la citadelle de Calvi. Du moins, ceux qui en ont les moyens, pas ceux relégués au fond des cimetières, dans les pierrailles non ombragées, dans les couloirs de crues et d'éboulis, où chaque orage menace de recouvrir les tombes d'une coulée de boue quand elles n'emportent pas les cercueils. Le caveau de la famille Idrissi pouvait défier pour l'éternité les intempéries. Il se dressait fièrement au-dessus du mur du cimetière de Marconnet, son dôme bleu-azur, ses colonnes corinthiennes, afin qu'aucun passant sur la corniche ne puisse oublier ce nom et cette glorieuse ascendance. Parmi les plus anciens des Idrissi figurait un amiral, 1760-1823, un député, 1812-1887, un maire, 1876-1917, l'arrière-grand-père de Clotilde, Pancras, 1898-1979. Ainsi que trois anonymes. Paul Idrissi, 1945-1989. Palma Idrissi, 1947-1989. Nicolas Idrissi, 1971-1989.